le grain de sable. Pensée globale. Une émission proposée par l'association Atacrone. Agir local. Le grain de sable. Bonsoir et bienvenue à l'émission Le Grain de Sable sur Radio Canu. Alors aujourd'hui, on reçoit Yanis de Survie Isère et Elodie de Survie Rhône, donc pour nous parler de l'association Survie, de la France-Afrique, également revenir sur les 1 an d'intervention française au Mali et également l'intervention française toute récente en Centrafrique. Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir.
Alors tout d'abord, Survie, pourquoi vous luttez, comment vous êtes créé? Donc là, on a la chance d'avoir un représentant qui vient tout droit de Grenoble, qui s'est déplacé. Donc il y a des Survies à différents endroits, dans les départements, donc vous avez un réseau.
Alors Survie, c'est une association nationale et ensuite on a des groupes locaux qui sont constitués avec un conseil d'administration propre. Et on est chargé d'animer au niveau local et de faire connaître le combat de survie au plus proche des citoyens.
Alors le combat de survie justement.
Oui. Donc Survie, c'est une association qui lutte contre la France-Afrique. Ça veut dire en gros de ramener à la raison la politique de la France en Afrique. C'est aussi de combattre la banalisation du génocide. Alors cette banalisation, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est de considérer, notamment quand c'est en Afrique, que dans ces pays-là, un génocide, ce n'est pas trop important. Donc je cite la phrase de François Mitterrand qui avait dit ça en 1994 à propos du génocide des Tutsis au Rwanda. Je le rappelle aussi aujourd'hui parce qu'on est en 2014, donc on est en plein dans les 20 ans du génocide, et Survie va faire une commémoration de ces génocides, de rappeler la complicité de la France dans ce génocide. Le troisième objectif de Survie, c'est de réinventer la solidarité internationale en faisant la promotion des biens publics mondiaux. Alors comment on agit à Survie? On mène des campagnes d'information, d'interpellation des citoyens et des élus pour une réforme de la politique française en Afrique et des relations Nord-Sud.
Alors, c'est à quel niveau, que ce soit autant au niveau national qu'au niveau local, par rapport justement aux coopérations qui peuvent se faire, ou le niveau des élus?
C'est à deux niveaux. On peut aller voir les députés, on peut aller voir directement les maires pour tout ce qui est coopération décentralisée, ce genre de choses. Ça se fait à tous les niveaux, en fait.
Voilà. Et c'est basé sur un travail minutieux de veille documentaire, de lecture d'articles de presse, de témoignages, d'échanges avec la société civile africaine. Et dernièrement, d'ailleurs, on a fait quand même venir pas mal de militants africains. L'année dernière, on avait fait venir le militant gabonais Marcona. Et cette année, c'était Monsieur Issa Ndiaye, qui est un militant malien, qu'on a fait aussi venir pour parler de la situation au Mali et de l'opération Serval.
Donc vous avez des contacts, mais vous avez aussi des antennes Survie en Afrique, ou?
Pas du tout. Alors Survie, c'est une association de citoyens français. Le rôle de Survie, c'est bien d'interpeller le citoyen pour qu'il se pose des questions sur qu'est-ce qu'on fait en Afrique, qu'est-ce qu'on fait de l'argent public aussi. On n'a pas vocation à
intervenir comme peut le faire d'autres ONG de développement, par exemple, à mener des projets de développement au niveau local. C'est vraiment une association de recherche documentaire, en fait, et d'éducation populaire sur la relation qu'a la France avec les pays d'Afrique francophone tout particulièrement.
D'accord. Justement, vous parliez tous les deux de développement ou de coopération décentralisée. Vous dites que vous n'intervenez pas, justement, vous dites que vous intervenez auprès des élus pour peut-être avoir un mot à dire là-dessus. Qu'est-ce qui pourrait être, par exemple, tout à l'heure, Elodie employait le terme ramener à la raison. Qu'est-ce que vous reprochez à certaines de ces actions, par exemple?
Alors, on reproche plusieurs choses. Donc, ce qu'on dénonce dans le système de la France-Afrique, c'est toutes les relations occultes, le volet occulte des relations franco-africaines. Je reprends juste qu'est-ce que c'est survie, et après je reviendrai sur vraiment qu'est-ce qu'on combat. L'histoire de la France-Afrique, elle remonte aux indépendances. Dans les années 60, avec la mise en place du système dit de la cellule africaine de l'Élysée, qui était dirigée par Jacques Faucard, l'homme de l'ombre et de tous les coups tordus du général de Gaulle. Et pour symboliser un peu ce que c'est la France-Afrique, je vais utiliser la même image que celle qu'utilisait François-Xavier Verschave. La France-Afrique, c'est comme un iceberg. Vous avez la force du dessus, la partie émergée de l'iceberg, donc là c'est la France amie de l'Afrique, partie des droits de l'homme. Et puis ensuite vous avez 90% de la relation, de cette relation qui est immergée, donc celle qu'on voit pas, celle qui est sous la mer. Et là c'est l'ensemble des mécanismes de maintien de la domination française en Afrique avec des alliés africains. Alors pourquoi on a fait ça ? Pourquoi on a maintenu un système de dépendance ? C'est pour se garantir, pour des raisons économiques, pour se garantir un accès privilégié aux matières premières, aux cultures de rente également. Et puis aussi, c'est des raisons politiques. C'est de garder l'Afrique dans le camp occidental. À l'époque, c'était aussi de financer le parti gaulliste par le détournement d'argent. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'aujourd'hui qui perdure, c'est de maintenir le rang de la France à l'ONU. Aujourd'hui, quand survit le combat de survie, et ce qu'on va demander aux politiques, c'est de remettre en question des outils de domination. Donc aujourd'hui, les outils de domination, je vais en donner trois. C'est le franc CFA. Donc aujourd'hui, il y a encore, tu me diras Yanis si je me trompe, 15 pays qui sont encore régis par ce franc qui est vraiment qui symbolise. Enfin, c'est le franc CFA, c'est encore le seul système monétaire colonial du monde à avoir survécu à la décolonisation. C'est un outil de contrôle politique et économique sur ces pays et c'est une véritable tutelle monétaire. Donc, les Africains n'ont aucune mainmise sur la politique monétaire.
Très concrètement, les banques centrales africaines de l'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale sont rattachées à la Banque de France et au ministère des Finances français via la Direction Générale du Trésor.
Alors nous, on est passé à l'euro, mais eux, ils sont restés au franc.
Alors le franc CFA est quand même...
Le franc CFA est raccroché à l'euro. De la même façon, les accords n'ont pas changé avec le passage à l'euro.
C'est intéressant de rappeler, pour peut-être des gens qui ne savent pas, que CFA, littéralement, c'est colonie française en Afrique, si je ne dis pas de bêtises, non ?
C'était on l'a changé. On a gardé le même acronyme, d'accord. Maintenant, il est un peu différent, mais c'est dans l'idée, c'est absolument ça. On est resté dans la même dynamique.
Le deuxième pilier, c'est l'aide publique au développement. Ouais. Alors, on pourrait croire que c'est plutôt quelque chose de louable.
A priori.
Mais en fait, ça répond pas vraiment aux objectifs affichés, puisque c'est essentiellement de l'aide multilatérale. Donc, dans l'aide publique au développement, on va compter l'argent qu'on donne au FMI, à l'UE et à la Banque mondiale. Donc, on voit très bien donc, les politiques néolibérales que mènent ces pays. Donc, on peut s'interroger sur le bien fondé de cette aide publique au développement.
Et donc, nous, même en tant que citoyens français, justement, c'est de l'argent du contribuable, que ce soit d'ailleurs de la coopération décentralisée ou nationale. Et sur ce qui en est fait, ne serait-ce qu'en matière de contrôle et en matière effectivement de contrepartie qu'on demande à ces pays en matière de politique d'ajustement du FMI ou de baisse des politiques sociales, de baisse des dépenses publiques.
Qu'on commence à bien connaître en Europe. C'est aussi l'aide bilatérale. Donc là, dans l'aide bilatérale, c'est un espèce de fourre-tout. Hein. On met dans l'aide bilatérale la francophonie, donc le fait de promouvoir la culture française, c'est l'aide publique au développement. Bon, ça, je vous laisse à même de juger. C'est aussi l'accueil des réfugiés. Donc, dans accueil des réfugiés, on entend les centres de rétention et les frais de rapatriement des étrangers sans papier.
Bon, c'est intéressant de l'accueil, ouais.
Voilà. Donc ça, c'est de l'aide publique au développement. Et en fait,
Pour préciser aussi, il y a aussi un aspect complètement détournement de cette aide publique au développement et ça part dans les poches de dirigeants locaux depuis qu'on a instauré ce système d'aide. C'est une façon de s'acheter les bonnes grâces aussi de ces dirigeants sur place. Il y a un aspect complètement corruption dans l'aide publique au développement.
Et enfin, le troisième pilier et qu'on combat, c'est la présence de l'armée française en Afrique. On a encore des bases militaires. On a Sarkozy avait Il y avait une volonté de Sarkozy de quand même diminuer cette présence. Hollande a aussi poursuivi, mais il se trouve qu'aujourd'hui, avec l'actualité, on peut s'interroger sur vraiment la concrétisation de cette promesse. Et le fait que cette armée soit très présente en France, présente en Afrique, légitime aussi notre intervention.
Disons que la France reste le gendarme de l'Afrique.
Oui, c'est un terme qu'on entend souvent.
C'est
gendarme,
le terme qu'on entend extrêmement souvent, et ça pose un énorme problème au niveau de la souveraineté des pays africains dans lesquels ces bases sont implantées, typiquement le Sénégal, Djibouti.
Et il y a des, en dehors des interventions dont enfin que ce soit le Mali ou Centrafrique, il y a aussi l'armée française dans des bases dans d'autres pays
voilà,
en permanence.
Absolument, il y a trois bases permanentes qui sont le Sénégal, le Gabon et Djibouti. Après, il y a une opération qui est quasi permanente qui est au Tchad, puisqu'elle date depuis 86, et désormais nous avons le Mali, nous avons la Centrafrique, nous avons la Côte d'Ivoire, donc un très grand nombre de pays, on peut même rajouter le Niger désormais, donc la France redéploie d'ailleurs actuellement son armée dans cet espace.
Et il y a d'autres pays européens qui sont également présents en Afrique, on est les seuls, enfin à ce niveau-là.
À ma connaissance, nous sommes les seuls pays européens à avoir autant de bases.
On est la plus grosse armée présente en Afrique.
En Afrique, absolument. Et typiquement, l'Angleterre n'a aucune base dans ses anciennes colonies, par exemple. Ce qui est, si on peut faire la comparaison, la France n'a absolument pas décolonisé, de ce point de vue-là, les pays qu'elle a occupés au moment de la colonisation.
Et ça pose aussi la question, moi je pense qu'on y reviendra par rapport aux interventions, de aussi les pays africains eux-mêmes, alors que ce soit en termes, ils existent également en termes d'union de différents pays, finalement c'est pas eux qui sont à même d'intervenir dans leur propre continent.
C'est un petit peu ce que, alors c'est à double tranchant, parce que c'est un peu ce qu'a révélé le Mali, mais d'un autre côté la France n'a jamais, malgré le discours qu'elle peut avancer, fait tout pour rester un acteur majeur des questions de sécurité dans l'espace francophone africain. Donc il y a un double discours de promouvoir d'un côté ces organisations régionales, par exemple l'Union africaine ou la CDAO, ce genre de...
La CDAO, c'est la...
La communauté économique...
Des
États d'Afrique de l'Ouest. et qui avait, par exemple, été... l'idée, normalement, à la base au Mali, c'était d'intervenir en soutien d'une force de cette instance régionale. Et il se trouve que les armées de la région n'étaient pas assez développées, n'étaient pas assez fortes pour pouvoir intervenir directement, la France n'ayant pas non plus incité à une intervention dans la mesure où elle voulait avoir la main. Il y a une idée d'entrer en premier sur le théâtre des opérations, c'est comme on dit comme ça, et ça permet après d'avoir une gestion des opérations, de l'agenda politique, ce que veut avoir la France.
Justement, on parlait de France gendarme de l'Afrique et qui est avec des bases permanentes dans certains endroits. Est-ce que dans ces bases, ça lui permet aussi de former les armées africaines ou elle n'est pas du tout dans ce domaine-là? C'est-à-dire de leur donner leur autonomie en termes de...
Alors, normalement, depuis le milieu des années 90, l'idée du maintien des bases en Afrique, c'est dans l'idée de former les armées africaines. Ce qu'on fait depuis les indépendances, si on peut les appeler comme ça, dans les années 60, mais depuis les indépendances, les armées africaines n'ont jamais été structurées. Généralement, c'est des formations qui partent un peu dans tous les sens. Il n'y a jamais eu d'armée vraiment structurée dans un grand nombre de pays francophones, en tout cas. Mais donc, un des aspects et une des façons de légitimer la présence de ces bases, c'est de dire, on va former les armées africaines, mais c'est vraiment un rideau de fumée, puisque ça fait des années qu'on fait ça, et ça ne marche pas, il n'y a pas de résultat concret.
Un exemple, en Centrafrique, il y avait 5000 soldats, et sur les 5000 soldats, seulement 3000 avaient un fusil.
D'accord. Ouais, en 30 ans, on imagine que s'il y avait eu la volonté, ce serait largement effectif.
Voilà, ça pourrait être effectif s'il y avait eu la volonté.
Mais il y a aussi l'excuse de « on intervient parce que les pays africains ne sont pas en capacité de le faire ».
Absolument.
C'est le discours.
Il y a cette rhétorique, c'est que du fait que les armées africaines ne sont pas en mesure d'intervenir, la seule qui peut intervenir, c'est la France. Et donc, on fait de nouveau appel à la France pour... c'est une façon de s'auto-légitimer qui est assez pratique finalement.
On va faire une petite pause, on se retrouve donc tout de suite après la musique. qu'on retrouve nos invités de survie, donc pour parler de la France-Afrique et
c'est
des
normal,
interventions
tout le monde l'a fait.
au Mali et en Centrafrique. Mais justement, Élodie, tu peux nous dire ce qu'on vient d'écouter?
Alors, on vient d'écouter Djeli Madine Tunkara, qui est une chanson qui s'appelle Fanta Burana. Voilà, c'est un guitariste malien.
Et donc justement, parlons du Mali, mais des choses un peu moins agréables, enfin vraiment moins agréables. Donc c'est il y a un an aujourd'hui, de, à peu près enfin, en janvier, de l'opération Serval de la France au Mali. Donc on aimerait bien revenir un peu sur, alors pas seulement sur ce qui s'est passé cette année, peut-être déjà revenir sur comment cette intervention a été décidée, comment elle a été aussi justifiée, et ce qu'on nous a dit, et surtout ce qu'on nous a pas dit, et quel bilan on peut en faire au bout d'un an.
Alors, rappelons peut-être la situation rapidement au Mali. Dans les dernières années, avant l'intervention, on nous a vanté le Mali comme un modèle de démocratie. Vous en doutez que c'est pas si simple que ça. Le Mali a été victime, comme beaucoup de pays, des ravages des politiques néolibérales. Donc, les services publics n'étaient pas ne pouvait pas aller dans le sens du bien commun pour toute la population. C'est un pays qui n'allait pas très très bien économiquement et socialement. Le système mis en place par le président malien monsieur Toumani Touré était basé sur de la corruption et du clientélisme.
Donc quand on l'a appelé modèle de démocratie, les critères c'était qu'il y avait des élections de temps en temps, voilà.
Voilà, en fait, il y avait des élections, mais le régime en soi n'était pas stable comme on a pu le voir. Disons qu'il y avait la démocratie était existante, il est vrai, mais ça s'arrêtait là au niveau du développement de l'État et du développement général du pays.
Le Mali a été fortement déstabilisé avec l'opération Harmattan, donc l'opération en Libye en 2011, qui a permis la fuite de mercenaires maliens, qui s'étaient mis au service de Kadhafi à l'époque, qui sont rentrés au Mali avec armes et bagages. Donc le Nord a été fortement déstabilisé, mais c'était déjà le cas, c'est pas nouveau, les rébellions des Touaregs, il y en avait déjà depuis les années 60. L'armée d'ATT, donc le petit nom de l'ancien président de Mali, M. Toumani Touré, était en incapacité de faire face à ces rébellions. Ce qui a conduit notamment au coup d'État de mars 2012 par le général Sanogo et ensuite à la déstabilisation générale du pays. Ce qui a permis aux rebelles, enfin ils ont profité du coup d'État, du coup d'un moment un peu de flou pour prendre les armes. Et donc dans ces rebelles-là, on a les Touaregs du MNLA. Et puis on a entendu beaucoup les groupes donc Ansar Dine, le Mujao, qui sont plus ou moins affiliés à ACMI, mais je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros ça a créé une situation, on va dire, chaotique.
Oui. Toute la partie nord du Mali, quasiment la moitié du Mali était est passé sous la coupe de mouvements armés, donc le MNLA, le Mouvement National de Libération de l'Azawad, qui se disait laïque, accompagné de d'autres mouvements plus tournés vers un islam radical, Ansar Dine, le Mujao, donc le mouvement d'unicité pour le djihad en Afrique de l'Ouest, et ACMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, sachant que très rapidement, la branche laïque, à savoir le MNLA, va se faire évincer de toutes les villes du nord du Mali qui avaient pu être conquérées, notamment Gao et Tombouctou. Donc la situation, et c'est après ce qu'on a pu voir, la destruction des mausolées à Tombouctou, et donc a commencé à être mis en avant le risque islamiste et djihadiste de cette zone.
Donc là, c'est là que sont apparues les raisons officielles de l'engagement de la France au Mali. Donc on a entendu François Hollande nous dire le 12 janvier 2013, la France n'a pas d'autre but que la lutte contre le terrorisme. Et l'autre argument qu'on a mis officiellement en avant, c'est de, donc là aussi je cite François Hollande du 2 février 2013, les armées du Mali et de la France, appuyées par les pays de l'Afrique de l'Ouest, rendent enfin au Mali son unité, son intégrité et sa force. Donc l'autre deuxième argument, c'est de rendre voilà,
son intégrité
territoriale au Mali.
Ce qui s'est fait avec une intervention massive de la France. Hein. C'était un assaut en bonne et due forme, une conquête territoriale comme il n'en avait pas eu depuis quasiment la guerre du Golfe, hein, à ma connaissance. L'armée française a mené une opération de très grande envergure.
Donc combien d'hommes sont...
Alors officiellement, on tournait autour de 4500. Le rapport des parlementaires sur la question a quand même avancé un chiffre de 5100-5200 hommes, sachant qu'il est absolument impossible de savoir qu'est-ce qui est intégré dans le calcul. Typiquement, est-ce que les forces spéciales sont intégrées dans cet effectif? Mais ça a mobilisé énormément de personnel de l'armée française. Typiquement, ça a aussi sollicité la base qu'il y avait au Tchad. On a amené des véhicules blindés qui n'avaient jamais été déployés à très grande échelle. Donc ça a été un petit peu un moyen pour la France de d'étaler sa puissance militaire aussi. Il ne faut pas.
Donc c'était vraiment on vient au secours, on lutte contre le terrorisme.
Voilà, surtout que la population française était plutôt favorable à cette intervention, la population malienne aussi.
Un matraquage médiatique assez impressionnant, aussi bien du côté
des deux côtés, mais disons que l'intervention avait été bien préparée. La France prévoyait d'intervenir de longue date, malgré le fait qu'on nous ait présenté ça comme un appel au secours.
Surtout quelque chose dans l'urgence, donc finalement qui se discute pas. Je ne sais pas si ça a été vraiment discuté. Est-ce que à l'Assemblée...
Non, ça ne se discute pas.
Alors, ça ne se discute pas à l'Assemblée constitutionnellement. Le chef de l'État et le chef des armées sont à l'article 51, si mes souvenirs sont bons. Et donc, il peut déclencher une opération militaire. Il doit en informer l'Assemblée sous 3 jours, qui, elle, statuera ou non de la poursuite des opérations 4 mois après.
Donc
on a le temps de faire une opération, et typiquement au bout de 4 mois l'opération était finie au Mali.
Et donc l'argument de la guerre contre le terrorisme et de l'urgence est un argument on va dire fallacieux ou...
Ouais. Oui, absolument.
Sur la question, on a beaucoup entendu l'expression des colonnes de djihadistes qui descendaient sur Bamako. Justement, ça a été un prétexte pour nous, en fait, hein, d'intervenir. C'était l'urgence, c'était ces colonnes de djihadistes qui descendaient. Il y a plusieurs acteurs qui contestent ce prétexte. Il y a notamment des journalistes du Figaro là, qui avaient sorti un bouquin qui s'appelle Notre guerre secrète au Mali, donc de Lasserre et Oberlé, qui eux affirment que depuis le 26 juin 2012, dans le secret des quartiers généraux, une liste de prétextes qui justifierait une rapide intervention française a été établie. Et donc l'urgence serait un...
Voilà, se prépare à l'avance.
Voilà. Et il y a aussi Aminata Traoré et Boubacar Boris Diop, qui on a pas mal entendu dans les médias là quand même ces derniers temps, enfin notamment j'étais interviewé sur France Culture, il y avait une émission très intéressante. Eux, ils en rigolent presque de cet argument en disant mais enfin il y avait 400 djihadistes, ils auraient pu parcourir 1000 kilomètres, prendre Kona, Sévaré, puis ensuite Bamako, et on a déployé 5500 hommes. Et donc pour eux, ça dépasse l'entendement. C'est une histoire qu'on nous raconte pour justifier cette intervention. Donc la guerre contre le terrorisme pose aussi l'autre question, mais c'est qui est l'ennemi ? On a toujours tendance, nous Français, à être assez, pas dubitatif, mais sceptique par rapport à la politique américaine et à sa guerre contre le terrorisme. On est vachement, on dit l'impérialisme américain, mais alors qu'on concerne la France, la guerre contre le terrorisme, ça passe tout seul.
Il faut noter que l'équipe de Hollande a totalement repris la doctrine, les concepts de communication de la guerre contre le terrorisme qui a été fondée par les néoconservateurs américains sous l'ère de Bush. Hein. D'ailleurs, Hollande a pu dire directement qu'on allait au Mali pour détruire les djihadistes. Les généraux qui ont dirigé l'opération l'ont dit de la même façon, alors même que c'est en contradiction avec le droit de la guerre. Hein. Normalement, on n'a pas le droit de mener une opération en voulant annihiler l'adversaire. Donc, il y a vraiment, dans la mesure où c'est des terroristes, tout est permis finalement, et il y a une sorte de consensus qui se crée autour de ce mot en fait. Donc, il y a la communication élysienne a vraiment repris Et les concepts, et même quasiment actuellement la démarche hein, de ce qu'a pu faire les États-Unis au début des années 2000.
Mais Aminata Traoré, justement, l'ancienne ancienne ministre de la Culture, je crois, au Mali, rappelait qui sont les terroristes, et rappelait que du fait des politiques néolibérales, il y a une grande pauvreté qui s'est créée, et il y a des jeunes qui sont complètement désœuvrés, et donc ce sont des gens qui se sont engagés dans des mouvements plus ou moins rebelles, plus ou moins dangereux, mais voilà, on terroriste, on oublie qui
c'est
est
un
derrière.
Moyen d'avoir voilà. De quoi gagner sa vie, alors peut-être aussi avec du trafic par derrière, enfin je sais pas.
Tout à fait.
Oui, parce que un aspect fondamental de cette zone en fait, du Nord Mali, mais aussi du nord de la Mauritanie, du Niger, du sud de l'Algérie, de la Libye, c'est que c'est une très grande zone de trafic, de contrebande, de drogue, trafic des êtres humains aussi. Et en fait, il y a une véritable manne financière à se faire dans ce qui est un désert, mais qui est une zone de transit, et donc à partir de là, qui peut rapporter beaucoup d'argent. Et d'où les luttes dans cette région aussi. C'est donc il y a un recroisement entre des affaires de banditisme pur et simple avec un habillage islamiste pour certains, un habillage d'indépendance pour d'autres. Il y a vraiment cette complexité à prendre en compte pour comprendre l'opération.
Et alors justement, un État comme la France, quand il intervient avec une disproportion inouïe et manifestement sous des prétextes fallacieux, quelles seraient les véritables motivations ? Est-ce qu'on a une idée de ça ?
Mais un des motifs, alors il y a plusieurs motifs. Il peut y avoir déjà le premier, ça peut être à mon sens un aspect de puissance, à savoir que le Mali est dans la zone de d'ingérence francophone française et que à partir de là, on ne peut pas tolérer une telle rébellion dans au Mali. Une autre cause, c'est aussi la présence au Niger, juste à côté, de la mine d'Arlit, qui est une mine d'uranium d'Areva, et qui produit, alors, si mes souvenirs sont bons, de l'ordre de un tiers de l'uranium qui est consommé en France. Donc c'est un enjeu capital pour la sécurité énergétique de la France. Les deux liés font que cette opération est lancée.
Puis on peut imaginer qu'au Mali, il reste aussi d'autres matières premières ou richesses
Alors oui, justement.
Enfin,
ça nous a posé.
Enfin, des Français,
c'est pas. Enfin, c'est vrai que quand on parle d'intervention française en Afrique, on a toujours tendance à rechercher les raisons économiques. Et quand on réfléchit au Mali, alors on a parlé un petit peu du Niger, du l'uranium, mais en Centrafrique c'est pas le cas. C'est plus la question d'intérêt. Je te laisse la parole après, Yanis.
C'est plus
l'intérêt stratégique, en fait.
C'est vrai qu'on a toujours tendance. C'est un réflexe d'aller un peu chercher le pétrole. On se dit, on intervient, c'est potentiellement il y a de la richesse, il y a donc le pétrole très concrètement. Hein, généralement, deux semaines après que commence une intervention, commence à sortir des articles sur des potentialités d'exploitation pétrolière. Il y avait par exemple le bassin de Taoudéni au Mali. Se pose la même question au nord de la Centrafrique. On se dit, on y va pour du pétrole. Ça peut être vrai. Pour le cas de Taoudéni, à première vue, on n'a pas plus d'informations concrètes qui aient tant de ressources que ça. L'idée est, à mon sens, vraiment plutôt de la dynamique de puissance de la France, en fait, de ne pas abandonner cet espace qu'elle considère comme le sien. Et donc voilà ce précaré, comme on l'a appelé, qui doit être maintenu.
Ça a été défini, enfin la zone du Sahel a été définie par l'Union européenne comme une zone d'influence, une zone stratégique pour le développement et la sécurité.
Enfin, la sécurité d'approvisionnement de l'Europe. C'est une zone qui est vraiment scrutée. Notamment, il y a les deux aspects de la politique européenne. Il y a cet aspect, les ressources qu'on pourrait y trouver. Et le deuxième aspect, c'est freiner l'immigration. C'est vraiment les deux piliers un petit peu de la politique européenne dans la zone. Avec, bien évidemment, de l'aide au développement, ce qui est le corollaire à peu près à chaque fois qu'il y a intervention. Il y a la carotte et le bâton, j'ai envie de dire.
Et une autre raison, enfin, c'est pas une raison de notre intervention, mais c'est aussi, enfin, dans ces deux interventions au Mali et en Centrafrique, on a l'impression, à survie, tu me diras, Yanis, si tu es d'accord, que il y a aussi un très très, enfin, ça révèle un très très fort poids de l'armée sur le gouvernement français. Ça pose vraiment question sur quelle est l'influence de l'armée sur nos choix.
En quelque sorte, est-ce que c'est vraiment le président qui déclenche ça ou est-ce que c'est l'armée qui
Ça serait pas l'armée. Disons que dans le système de François Hollande, l'armée a un poids extrêmement important dans la mesure où le ministre de la Défense a un poids extrêmement important. C'est un ami très proche. Jean-Yves Le Drian est un ami très proche de Hollande et il est très écouté. Et actuellement, la diplomatie française en Afrique est gérée principalement par Jean-Yves Le Drian et non pas par Laurent Fabius, qui par contre est un adversaire de très longue date de François Hollande, qui aux affaires étrangères ne gère quasiment rien. Il est quasi inexistant. La diplomatie est gérée par le ministère de la Défense et donc en grande partie par des militaires, dans la mesure où il faut savoir aussi que Hollande a gardé tous les militaires de l'ère Kadhafi. De l'ère Sarkozy. Et donc qui avait par exemple fait la guerre contre Kadhafi, ce sont les mêmes. Le général Puga, qui est le général particulier, ouais, était déjà là sous Sarkozy. Le chef d'état-major, c'était pareil. Quoi, le CEMA, quoi, le chef d'état-major général. Et donc, il y a une véritable continuité des hommes entre différentes interventions sous l'ère de Nicolas Sarkozy et la période actuelle. D'où un poids extrêmement important du ministère de la Défense et de l'armée dans les relations africaines actuellement.
Et l'opération Serval a permis à l'armée de conserver
son budget.
Oui, on a. Voilà. C'était vraiment, comme je dis, une démonstration de savoir-faire. On a même pu le voir à la télé, puisque un petit reportage est passé, si mes souvenirs sont bons, montrant toutes les capacités. Alors, tel hélicoptère, tel avion, tel. Vraiment, pour montrer que l'armée française est un outil formidable et donc qu'il faut lui conserver ses crédits, puisque c'est essentiel de l'avoir sous la main. Il y a vraiment cette dynamique aussi.
Et vous évoquez donc là, c'est plutôt le côté ministère de la Défense plutôt que la diplomatie qui l'emporte. Et justement, en parlant de diplomatie, on disait, est-ce que la France était mandatée pour aller défendre cette zone stratégique de l'Union européenne, pour l'Union européenne, et l'ONU aussi
Alors, très
c'est qu'elle a demandé, enfin, entre guillemets, la permission, mais elle y est allée avant d'avoir la réponse.
Très concrètement, pour ce qui est de l'Europe, c'est un peu complexe, on va dire. Disons que l'Union européenne avait lancé une mission de formation de l'armée malienne avant l'intervention française, donc qui est toujours en cours d'ailleurs actuellement. De façon consensuelle, c'est vrai que la France est quand même bien poussée par les autres pays européens pour s'occuper des questions africaines, dans la mesure où la France essaie de maintenir une stabilité et c'est elle qui a tous les coups, et les partenaires européens peuvent avoir les avantages économiques, très concrètement. Dans le cas de l'intervention au Mali, ça, il n'y avait pas de résolution de l'ONU. Il faut le savoir, on n'est pas intervenu sous couvert d'une résolution de l'ONU. La France intervient sur demande du président malien et la France invoque l'article 51 de la charte de l'ONU sur le droit de chaque État à la légitime défense. Et le droit à la légitime défense collective. Alors c'est que tous les juristes, même les juristes des associations de l'armée, on notait que c'était tordre le bras à un article de la Charte des Nations Unies. Mais donc l'offensive est unilatérale, je pense qu'on peut le dire très concrètement. Toutes les résolutions passées avant cette date étant dans la dynamique de la France va aider une armée africaine à reconquérir ou à stabiliser le Mali.
Et la tactique de la France, on va essayer de faire en sorte qu'à l'ONU soit votée une résolution. Donc il y a un fort activisme de la France auprès de l'ONU déjà depuis juillet, hein, pour ce qui concerne le Mali. Il y a une résolution, mais qui ne permet pas hein, l'intervention de la France, qui dit qu'il faudrait qu'il y ait une intervention internationale.
C'est ça.
Le 11 janvier, la France intervient avant que intervient hors cadre total des résolutions.
Hors cadre de l'ONU.
Donc la tactique de la France est d'aller, on l'a retrouvé, je crois que sur Licorne aussi. Tu me dis si je me trompe, mais non, je me trompe. Donc alors peut-être pas. Alors non.
Licorne, c'était
en Côte d'Ivoire, mais donc je me trompe. Mais cette tactique, voilà,
c'est un autre contexte. Là, il y a vraiment une idée de d'entrer en premier, un peu la démarche qui était celle de la France ces dernières années, c'est-à-dire de toujours intervenir sous couvert d'une résolution. Alors là, la communication élyséenne a encore tordu un petit peu l'affaire en disant que la France intervenait pour permettre la mise en place de la résolution de l'ONU faisant que des troupes africaines allaient pouvoir se déployer au Mali. Bon, c'était alambiqué. Ils ne se sont d'ailleurs pas appesantis sur l'aspect légal ou la légitimité internationale de cette opération, hein. Ça a généralement été assez vite occulté dans la mesure où les Maliens étaient d'accord, les Français étaient d'accord, on a tué le
caractère légal. Il y a des missions de l'ONU au Mali, donc comment la France intervient à côté avec
C'est toute la question.
Très concrètement, la France intervient à côté.
Au-dessus un peu aussi.
Au-dessus et à côté. Mais très concrètement, actuellement, donc il y a une mission. L'ONU a envoyé une mission finalement au Mali, la MINUSMA, et la France, selon les textes, sert de force de réaction rapide pour cette force de maintien de la paix. C'est-à-dire qu'on a une force de casque bleu d'un côté, financé par l'ONU, dirigé avec des instances onusiennes, un état-major onusien, et à côté, l'armée française garde son armée qui peut servir à la force onusienne si celle-ci
n'est pas en train de faire autre chose.
Ils appellent ça des détachements de liaison et d'appui. Donc en fait, il y a des DLA au sein de Serval, au sein de MINUSMA.
Non, au sein de l'armée malienne.
L'armée
malienne est un petit peu phagocytée, on va dire, par des troupes françaises. C'est que les troupes maliennes sont accompagnées en permanence de troupes françaises. L'inverse n'est pas vrai. Et aussi sûrement des liens entre la force Serval et la force des Nations Unies. Donc il y a un chevauchement d'entités. Ouais. Qui fait que la France garde totalement les mains libres sur le territoire et qu'elle de toute façon elle dicte son agenda politique. Pas plus tard que lundi devait être signé au Mali un accord de défense qui allait, selon les sources de la presse, autoriser la France à mener des actions antiterroristes sur le territoire malien. Alors des actions antiterroristes, c'est des actions de guerre. Hein, là,
Mais elle n'était pas déjà en train de le faire.
Elle est en train de le faire, mais l'accord de défense permettait de le faire de façon totalement durable, puisque là on était dans le cadre de Serval, donc c'est borné.
Mais on nous a toujours dit justement que voilà, l'intervention française, elle sera très ponctuelle et qu'après tout le monde repartira.
Non,
absolument
pas. La dynamique est au contraire de s'implanter et même de s'implanter dans d'autres pays que le Mali, à savoir le Niger devient une base pour les drones français. La France a acquis des drones aux États-Unis et ils ne peuvent pas voler en Europe, donc de toute façon ils seront obligatoirement ailleurs. Et là actuellement ils sont au Niger. Il y a aussi des troupes au Burkina Faso, à Ouagadougou. Il y a le Tchad qui est maintenu. Donc en fait la France se redéploie complètement.
Donc multiplie ses
bases. L'idée dans la doctrine, c'est de diminuer le nombre d'hommes par base, mais d'augmenter le nombre de base. C'est une stratégie des nénuphars, ça s'appelle. C'était les Américains qui avaient fondé ça un petit peu. Donc voilà, il y a vraiment très très concrètement, il y a une volonté de se réimplanter. Et au Mali, c'est encore plus scandaleux, parce que le Mali est un des pays qui a le plus résisté à l'occupation militaire française, au sens où au moment des indépendances, le président a réussi à renvoyer l'armée française et il y avait les relations même dans les années 70-80 étaient très très faibles. L'accord de défense qui a été signé, c'est un accord de coopération d'ailleurs pour être très très précis, dans les années 80 entre la France et le Mali stipule explicitement que la France ne peut pas faire stationner de troupes constituées au Mali. ce qui est le cas actuellement. Donc il y a un vrai retour en arrière, même sur l'histoire de la relation entre la France et le Mali sur les questions militaires.
Donc c'est vraiment, on a réussi à y rentrer, maintenant on y reste.
Quoi. On y reste.
On reprend après une pause musicale.
On a vu toutes les autres crassies, maintenant on veut la manger crassie ou rien. On a tout compris. Allez, dis aux hommes politiques, ils enlèvent nos noms dans les business. On a tout compris. Ils nous utilisent comme des chameaux dans des conditions qu'on déplore. Ils nous mènent souvent en bateau vers des destinations qu'on ignore. Ils allument le feu, ils l'activent. Et après, ils viennent jouer aux pompiers. Oh. On a tout compris. Allez, dis aux hommes politiques, ils enlèvent nos noms dans les business. On a tout compris. Allez, dis aux hommes politiques, ils enlèvent nos noms dans les business. On a tout compris. Ils nous utilisent comme des chameaux dans des conditions qu'on déplore. Ils nous mènent souvent en bateau vers des destinations qu'on ignore. Ils allument le feu, ils l'activent. Et après, ils viennent jouer aux pompiers, man. On a tout compris. On a gagné 600. En voilà au calamar. On a gagné. En voilà au Gunde dala nyima ganyo. Gunde dala nyima ganyo. Bumake bubara malakani. Madala mi dala mingambenda. Madala mi manamana kanyenda. Gunde dala nyima ganyo. Gunde dala nyima ganyo. Qu'on déplore. Ils nous mènent souvent en bateau vers des destinations qu'on ignore. Ils allument le feu, ils l'activent. Et après, ils viennent jouer aux pompiers, papa.
On a tout compris. On a tout compris.
C'est toujours le même scénario.
On a tout compris.
Les marchands d'illusions sont là.
On a tout compris.
Ils nous font rêver de bois. Ils achètent nos consciences contre des miettes. Madalami de la Mingambenda.
Ou
Madalami Manana Gambenda. Ngunde dala nyima ganyo. Ngunde dala nyima ganyo.
Ou
Madalami de la Mingambenda.
Ou
Madalami Manana Gambenda. Ngunde dala nyima ganyo. Ngunde dala nyima ganyo. Ngunde dala nyima ganyo.
Donc, toujours avec Survie pour parler France-Afrique et intervention française en Afrique. Donc là, on parlait de l'intervention des un an, de l'intervention Serval au Mali. Donc on a un peu raconté les tenants, les aboutissants. Donc beaucoup de monde, donc plus de 5000 soldats pour en arriver où aujourd'hui?
5000 soldats plus très rapidement épaulés par 1200 soldats tchadiens, qu'il ne faut pas oublier. C'est un aspect important, hein. La France n'y est pas allée totalement toute seule.
Du bilan, c'est, je vais citer Issa Ndiaye, donc est un militant malien, ancien ministre de l'éducation au Mali, qui dit que des raisons de la déliquescence de l'État malien qui ont entraîné le coup d'État de mars 2012, aucune n'a été prise en compte, et notamment les responsabilités des élites dans le délitement de l'État et le système clientéliste qui existait.
D'accord. Donc de toute façon, on n'a toujours pas un État et un pouvoir fort, on a juste l'armée qui fait tenir.
Voilà, il y a eu des élections, mais les élections ont suscité, notamment législatives, il y a eu une faible mobilisation, il y a eu moins de 30%. Il y avait eu un certain engouement, on va dire, pour l'élection présidentielle, mais qui est vite retombé, hein, les espoirs ont été vite déçus. On peut rappeler aussi qu'au nord du Mali, rien n'est réglé.
Acmi existe toujours.
On peut rappeler les combats proches de Tombouctou à la fin septembre, début octobre, des attaques à la roquette à Gao en octobre, l'assassinat des deux journalistes de RFI à Kidal en novembre, et aujourd'hui que Kidal est
Il reste, disons, le MNA est toujours sanctuarisé à Kidal, c'est-à-dire qu'ils sont toujours en armes, et il y a un problème de déploiement de l'administration malienne, donc de l'État malien, à Kidal, qui a été un petit peu, d'une certaine façon, protégé par la France. Et donc, les Maliens se posent actuellement la question y a-t-il un double jeu français, dans la mesure où la France soutient, quoi, à une politique très favorable vis-à-vis de ceux-là même qui ont déclenché la crise. Donc, il commence à y avoir un fort ressentiment au Mali contre la France, puisque les Maliens sont dupés et trahis du fait de cet état.
Et la troisième, on va dire, bilan de l'opération Serval, c'est la légitimation du dictateur tchadien Idriss Déby. Donc c'est une conséquence qu'on juge très très grave à survie, parce que Déby est un dictateur sanguinaire qui règne sur le Tchad depuis les années 90. Il a aucune légitimité démocratique. Il est coupable de très nombreux massacres. Son armée est connue, hein, on appelle les 10 000 soudards de la garde républicaine. Ils ont commis des massacres sur leur propre population. Et c'est cette armée-là qui est allée sauver les Maliens. Donc c'est l'ironie.
Et à la demande de la France
À la demande de la France, absolument. Puisque c'est une armée qui est aussi entraînée au désert. Très concrètement, ce sont des soldats qui sont considérés comme aguerris. Et ça permettait aussi d'avoir une caution africaine.
Ah oui, il fallait quand même avoir à ses côtés des
limité, puisque le Tchad ne fait pas partie de la fameuse CDAO, qui est l'ensemble sous-régional de l'Afrique de l'Ouest, mais que de la même façon, très rapidement, la France a essayé de faire intervenir des troupes du Togo pour montrer qu'il y avait d'autres troupes africaines, sachant que la France s'appuie désormais de plus en plus sur Idriss Déby, qui avait été marginalisé au début des années 2000 et qui désormais revient en grâce complètement dans la diplomatie française via son intervention au Mali, mais aussi du fait de l'intervention en Centrafrique, dans la mesure où Idriss Déby gère totalement ce pays comme son arrière-cour. Et donc le Tchad devient un des piliers du système france-africain en Afrique actuellement.
Et d'ailleurs, justement, on parle de la Centrafrique, il nous reste pas beaucoup de temps, mais alors, quelques mots pour dire, on retourne en Afrique, dans un autre pays, pour les mêmes raisons, où il y a ces différences et...
Alors là, c'est un peu différent, puisque l'ennemi n'est pas clairement défini, il n'y a pas de fameux terroriste, c'est une mission d'interposition. On retourne dans la Centrafrique, qui est le summum du système de la France-Afrique, c'est-à-dire que la France a géré ce pays très concrètement, pendant des années, via notamment un lieutenant-colonel de la DGSE pendant 13 ans dans les années 80. Donc il y a j'avais même lu dans un journal qu'on jouait à domicile. Il se trouve que l'intervention est beaucoup plus compliquée que prévu. La France y est allée la fleur au fusil. Et elle est actuellement dans un bourbier, hein, on peut bien le dire. La situation est catastrophique d'un point de vue humanitaire. Les exactions continuent. Les troupes françaises n'arrivent pas à stabiliser le terrain. Et on a pu voir, par exemple, très récemment, avec la démission forcée du président autoproclamé, il est vrai, Michel Djotodia, que on est toujours, quand rien n'a changé depuis l'époque où la France faisait et défaisait des régimes en Afrique, puisque très concrètement, la France, avec ses alliés tchadiens, congolais et Ali Bongo aussi du Gabon, ont décidé, on lâche Jotodia et on le remplace par quelqu'un d'autre. Et puis, personne qui sera sûrement marionnette et n'aura absolument aucune prise sur, sur son pays.
Donc là, l'argument, c'est vraiment une question de pouvoir de la France
Là, si on cherche les raisons, ce qui est mis en avant, c'est l'aspect humanitaire. Il est vrai qu'on aurait reproché sûrement à la France si elle n'était pas intervenue, ce qui était complètement paradoxal. Mais il y a véritablement toujours cette idée de zone d'influence qu'on ne peut pas lâcher. La France ne peut pas lâcher la Centrafrique. C'est hors de question.
Et qu'en fait, la situation, effectivement, elle est peut-être... il fallait qu'elle y aille, vu la situation, mais cette situation, c'est quand même elle qui a été en partie...
Oui, elle est totalement, responsable
de la situation, du fait de la dynamique historique qu'elle a instaurée en Centrafrique, et elle se permet encore de revenir et de continuer à donner des leçons finalement. Elle n'est pas du tout légitime, comme elle n'était pas légitime pour intervenir au Mali.
Donc justement, c'est un peu l'actualité, donc avec les 1 an de Serval, donc survie, vous avez fait paraître un petit document.
Oui, qui est un pastiche de la presse gratuite sur le modèle du 20 minutes qui s'appelle le 52 semaines. C'est un petit journal qui reprend des articles de notre journal qui s'appelle Billets d'Afrique. Donc, je vous invite à vous y abonner si vous trouvez ces articles intéressants, qu'on a diffusés dans le métro, un peu sur le mode de 20 minutes. Donc, c'est une initiative de survie Rhône.
Donc, si on veut le trouver, on prend le métro.
On prend le métro ou on vient à Radio Canu, puisqu'on va déposer des petits exemplaires. Et sur l'autre, l'actualité de Survie Rhône. Survie Rhône sera le 1er février à l'hébergement de Varay, qui est dans l'Ain, pour une journée info-débat sur le thème de la France-Afrique. C'est l'association Les Joyeux qui organise ça. Donc vous pouvez trouver plus d'informations sur le site lesjoyeux.org. Ensuite, la deuxième actualité de Survie Rhône, c'est le 8 février. Donc, on sera dans le cadre des samedis collectifs, on sera de l'autre côté du pont.
Donc à la Guillotière.
À la Guillotière, de 15h à 1h du matin. Et vous pourrez donc nous rencontrer, jouer avec nous avec un quiz et manger anti-France-africain, si possible. Et peut-être, éventuellement, le 15 février, Yanis, donc vous avez... vous avez entendu ici aujourd'hui à la librairie La Griffe, mais c'est encore à confirmer. Je vous invite à regarder notre site. Et prochainement, comme je l'ai dit en début d'émission, on va commémorer les 20 ans du génocide des Tutsis au Rwanda. Donc il va y avoir une grosse campagne menée au niveau national. Et donc ça va se traduire concrètement avec la venue de rescapés du génocide. Ça sera en partenariat avec l'association Ibuka, donc une association de rescapés rwandais. Il y aura sûrement des lectures, des films, et voilà, et la venue de conférenciers comme François Graner, qui est aussi un militant de survie, qui a travaillé sur qu'est-ce que les militaires disent du génocide des Tutsis au Rwanda pour vraiment comprendre ce qui s'est passé. Donc il a travaillé comme beaucoup de gens à survie, hein, s'appuie sur des documentaires qui sortent, qui sont officiels, les témoignages des militaires, et il essaye d'en tirer des choses pour en conclure, voilà, des choses sur la responsabilité de la France.
D'accord, donc pour continuer, parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément pu parler de tout, pour continuer à s'informer et décrypter ce que la France fait en Afrique, donc www.survie.org pour suivre tout ça. Et surtout pour le comprendre avec d'autres yeux. Eh bien merci.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
Et on vous laisse avec le Canu Info.